Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Fontaine en Isère concernant le logiciel libre et les données publiques avec notre invité Nicolas Vivant, directeur des systèmes d'information. Et comme la semaine dernière, je vais passer la parole à mon collègue Étienne Gonu pour cette discussion.
Merci Fred. Effectivement, donc si vous avez été avec nous la semaine dernière et que vous avez écouté le podcast, nous avons consacré notre première émission d'une série de deux sujets dédiés aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre. Et nous avions échangé avec Olivier Simon, directeur ville numérique de Nancy, que j'en profite d'ailleurs pour le remercier à nouveau hein, pour l'échange passionnant qui nous a permis d'avoir et que je vous invite d'ailleurs à retrouver en podcast donc ou à lire la transcription de Marie-Odile justement. Donc la suite de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui par téléphone Nicolas Vivant, directeur des systèmes d'information DSI de la ville de Fontaine en Isère. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et j'en profite également donc, pour remercier Christophe Boissonnade, qui est délégué à la communication et à la ville numérique de Voisins-le-Bretonneux, qui devait normalement se joindre à nous aujourd'hui, mais faute de transport, il n'a pas pu. Mais je ne doute pas que nous aurons d'autres occasions d'échanger avec vous, mais voilà, comme ça on aura le plaisir d'avoir l'exclusivité de cet échange avec Nicolas Vivant, DSI de Fontaine. Donc. Et Fontaine qui est, on va dire, un cas d'école, une vitrine même pour les libristes de migration réussie vers le logiciel libre. Et on se souviendra pour les personnes qui suivent ce genre de sujet, voilà, en 2016, il y a eu de nombreux articles qui évoquaient Fontaine la Libérée en référence à un événement éponyme. Bon, bien sûr, l'engagement date bien d'avant de ça et je pense que vous pourrez le confirmer, Nicolas. Et avant de vous passer la parole, je rappelle, voilà, parce qu'on a évoqué la semaine dernière les territoires numériques libres, qui est donc ce label initié par la DULAC, l'association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, qui est donc destiné à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts au sein des collectivités territoriales, enfin, de récompenser justement ces collectivités. Et Fontaine a eu 3 années consécutives, le niveau 4 sur 5, entre donc 2016 et 2018, ce qui est une consécration, enfin une preuve de la qualité de la politique menée en faveur du logiciel libre. Donc, Nicolas, bonjour à nouveau. Est-ce que vous pourrez déjà peut-être nous présenter en quelques mots les motivations de cet engagement vers le libre et pourquoi finalement Fontaine œuvre pour le logiciel libre?
Alors, rebonjour. Et les raisons, la raison principale est en fait une raison politique. Le mouvement a commencé en 2018 sous la houlette donc d'une majorité municipale différente et d'un élu qui s'appelle Laurent Thauviste et qui s'intéressait lui-même à cette problématique du logiciel libre et qui a donc il était l'élu à l'informatique à l'époque hein, et le conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme on disait et donc il a souhaité lancer ce mouvement là sur des bases politiques, c'est-à-dire qu'en fait et comme c'est le cas pour la plupart des élus, je crois, dans les communes, c'est la correspondance, enfin même la similarité qu'il peut y avoir entre les valeurs du libre, d'une part, et les valeurs du service public, qui a motivé le lancement du projet, si vous voulez. Donc il s'est ensuite appuyé sur la direction informatique, donc avec mon prédécesseur, pour lancer ce mouvement-là.
Donc, vous avez dit 2018 ou j'ai peut-être mal entendu, je pense.
2008,
ok, très bien. Oui, donc ouais. Ça fait voilà quelques années effectivement. Vous avez parlé là, donc vous êtes DSI. Peut-être qu'il peut être intéressant de préciser avant de voir justement comment se traduit cet engagement politique pour le logiciel libre. Qu'est-ce qu'une DSI dans une collectivité comme Fontaine et quel est donc votre rôle dans cette politique?
Donc la DSI, c'est la direction des systèmes d'information. Elle gère toute la partie informatique de la ville, donc aussi bien l'approvisionnement en matériel qu'en logiciel, mais aussi la téléphonie libre, la téléphonie fixe et mobile, pardon, et également tout ce qui a trait au réseau, la sécurité informatique, enfin l'ensemble du domaine informatique au sein de la collectivité territoriale. Donc moi, je suis le chef de service. On est une petite équipe. Nous sommes 7 personnes et voilà, nous gérons l'ensemble du spectre des systèmes d'information au sein de la ville.
Entendu. Alors du coup, vous nous disiez, voilà, vous arriviez, vous, en tant que DSI à Fontaine, qui avait déjà, donc, avant votre arrivée, initié cette politique logicielle libre. Alors vous êtes quand même reconnu comme personne d'importance dans cette démarche. Alors comment ça s'est arrivé? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Comment finalement on en est arrivé à cette situation de Fontaine la libérée, comme titrait certains
Alors, à vrai dire, c'est complètement accidentel, puisque avant d'arriver à la mairie de Fontaine, j'ai travaillé dans le privé, dans des sociétés américaines. J'ai passé une vingtaine d'années dans de grandes sociétés américaines où le logiciel libre était présent, mais à la marge et surtout sur des logiciels d'infrastructure, des choses un peu invisibles, on va dire. Quand j'arrive à la mairie de Fontaine, on est déjà dans une période un petit peu critique parce que le gros travail qui a été fait sur le logiciel libre jusqu'à présent l'a été fait sur des logiciels qui sont très importants pour la collectivité mais qui sont pas visibles pour les utilisateurs. Je pense notamment au logiciel de messagerie, et je parle pas du client de messagerie, mais du logiciel qui est chargé d'envoyer et recevoir les mails. Je pense au serveur de fichiers qui est déjà sous Samba à l'époque. Je pense aux serveurs d'annuaire, tout un tas de logiciels qui sont pas directement visibles par les utilisateurs. Et donc le passage d'une solution propriétaire à une solution libre s'est fait sans difficulté, puisque bon, c'était complètement transparent pour les utilisateurs. Et quand j'arrive, un projet a démarré depuis quelques mois, qui est le projet de passage d'une solution bureautique propriétaire, Microsoft Office, pour pas la citer, à une solution libre, à l'époque OpenOffice. Voilà. Et là, donc, pour la première fois sur le poste de travail, l'utilisateur commence à être concerné. Et donc, les premières résistances font jour, quoi. Voilà. Les premières difficultés commencent là. Et donc c'est là qu'on commence à réfléchir à une stratégie un peu globale de passage au libre qui permette de minimiser ces résistances et ces inquiétudes sur les changements à venir sur les postes clients, quoi.
C'est vrai qu'on entend souvent l'enjeu de cette politique, comment on accompagne ces évolutions. Alors vous parlez de résistance, bon, peut-être c'est souvent les mêmes d'ailleurs, j'imagine, ça va être culturel, dans les usages, elle s'exprime comment? C'est-à-dire qu'il y a une réticence en amont, c'est plutôt des difficultés techniques de changer les habitudes, c'est...
Alors il y a deux choses, il y a effectivement, si vous voulez, dans une mairie, tout le monde n'est pas informaticien, loin de là. Il y a des métiers très divers et il y a des personnes qui ont connu l'avant-informatique, le tout papier. Ces personnes-là ont mis du temps pour acquérir des compétences en informatique sur lesquelles elles n'ont pas été d'ailleurs forcément formées. Alors il y avait quelques formations bureautiques, mais voilà, elles ont mis du temps parfois à obtenir cette compétence-là. Et donc elles ont l'impression qu'on remet en cause cette compétence, qu'on les met de nouveau en danger, de nouveau devant quelque chose qu'elles maîtrisent mal. En changeant un outil qui est un outil de travail quotidien, quoi. Voilà. Donc c'est une inquiétude qui est liée à la nouveauté, en fait. Alors, je vous cache pas que à l'époque, quand j'arrive à Fontaine, je suis moi aussi habitué à la suite propriétaire et je suis DSI. Et je me dis qu'au pire, si je m'en sors pas avec OpenOffice, je réinstallerai les logiciels auxquels je suis habitué. Mais je décide de jouer le jeu, et donc de me mettre sur OpenOffice et de voir comment ça se passe. Et je réalise qu'en fait, on peut tout à fait travailler dans des conditions plus que correctes, enfin aussi correctes qu'avec la suite propriétaire. Et c'est comme ça qu'en fait, je commence à être convaincu de l'utilité du libre, parce que je vois que ça fonctionne, je vois que ça fonctionne aussi bien. Et puis je vois surtout que je commence à faire des économies de coûts de licence. Et là, je me dis qu'on tient quelque chose et que ça vaut le coup de se battre pour ce projet-là, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment une résistance culturelle, effectivement. C'est-à-dire qu'on est habitué à un outil et c'est compliqué d'en changer, surtout quand ce n'est pas notre métier.
Oui, c'est intéressant, et surtout quand vous avez vécu finalement vous-même cette évolution et ce besoin, voilà, de progresser, d'expérimenter par la pratique l'intérêt du libre. Je pense qu'on reviendra peut-être plus tard dans l'émission justement sur comment est-ce qu'on mène ces politiques d'accompagnement avec les agents publics. Ce que je pense intéressant, c'est peut-être déjà de voir, ok, vous menez une politique qui est menée. Vous dites que vous êtes arrivé en tant que DSI. Ce qui est intéressant peut-être, je pense qu'il peut être intéressant pour nos auditeurs auditrices, c'est de voir comment s'articule la relation entre donc les services techniques qui doivent mettre en place une politique et puis les élus, les personnes qui projettent et qui mettent en place ces politiques pour le logiciel libre. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé de manière assez fluide? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou non? Enfin...
Alors, nous, on a une chance, c'est que l'initiative était politique au départ. Donc, c'était pas... l'adhésion des élus était acquise. Voilà. Ensuite, la difficulté, c'est de mettre en place quelque chose avec une migration qui se passe suffisamment bien et des conditions de travail qui restent parfaites pour qu'il n'y ait pas de remise en cause a posteriori, s'il y a un changement politique ou simplement un nouvel élu, sur la base d'un mécontentement des usagers, en fait. Voilà. Donc, alors, sur la suite bureautique, c'est passé par une façon de procéder, on va dire une stratégie de migration relativement simple. On a commencé, et ça a été la même chose pour le passage des postes sous Linux, on a commencé par les décideurs, en fait. C'est-à-dire que les élus, le maire, la direction générale, le cabinet, ont été les premiers à être migrés sur les solutions libres. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des décideurs, c'est eux qui ont pris la décision, c'est une façon pour eux de montrer qu'ils l'assument. Et aussi parce que ce sont des utilisateurs exigeants. Les tableaux les plus complexes sur les tableurs et les textes les plus pointus, ils sont issus de ces services-là. Enfin, de ces services ou de ces... Enfin, donc, soit des élus du cabinet. Et donc, c'était intéressant de les migrer en premier pour qu'ils mesurent aussi l'effort que ça pouvait représenter pour d'autres utilisateurs.
Oui, ça fait moins de décisions venues du haut et qui s'imposent finalement sans connaissance du réel. Quoi.
Tout à fait. Et leur soutien à ce moment-là, c'est quelque chose qu'ils peuvent étayer au-delà de la simple décision politique en disant « Attendez, moi je l'utilise, ça marche. Voilà. Donc c'est possible, on va faire le chemin ensemble. S'il y a des résistances, on va les gérer. Mais en tout cas, nous-mêmes savons que c'est possible. » Et ça, c'est... Alors évidemment, c'est pas quelque chose que je leur ai imposé. Hein. C'est quelque chose qui a été discuté. Mais qui a été, je crois, assez à la fois original et prépondérant dans la stratégie qui a été mise en place à Fontaine.
Ouais, très, très intéressant. Et on sait qu'il est à la fois nécessaire d'avoir une ambition et un objectif politique, mais s'il est déconnecté du réel, finalement, ça ne peut pas aboutir correctement. Donc c'est important d'avoir cette articulation. Alors du coup, ces stratégies, elles s'appuient, j'imagine, sur certains piliers, sur certains objectifs, certains critères. Comment elle est définie, finalement, cette stratégie ?
Alors, un des problèmes auxquels j'ai dû faire face, c'est que dans les services, il y a d'autres chefs de service, évidemment, qui sont mes alter-ego dans d'autres domaines, et qui ont les capacités en termes de budget d'acheter des logiciels s'ils le souhaitent. Et une des premières choses qui a été faite par la direction générale, c'est de centraliser absolument tous les budgets, tous les achats informatiques au niveau du budget du service informatique. C'est-à-dire que les services n'ont plus la possibilité d'investir dans du logiciel. Voilà. Ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été, dans un premier temps, de migrer les gens qui souhaitaient l'être, parce qu'il y avait quand même quelques personnes qui connaissaient la suite OpenOffice. Alors, on est sur LibreOffice, hein, depuis, on a évidemment changé, mais donc il y avait quelques personnes qui connaissaient, qui étaient volontaires, et on a commencé par eux, évidemment. Et puis quand les gens ont vu que ces gens-là survivaient aussi bien qu'eux, hein, et puis surtout pouvaient échanger des documents, qu'il n'y avait pas de problème d'interopérabilité avec ceux qui étaient toujours sur la suite propriétaire, alors à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé les nouveaux postes avec OpenOffice et seulement OpenOffice. Voilà. Il n'y avait plus de Microsoft Office installé. Et puis on a également cessé d'acheter des licences Microsoft Office. Et donc, c'est un renouvellement, j'allais dire, doux. On renouvelle environ 20% du parc chaque année. Et donc, voilà, la migration vers la suite libre, c'est fait de, en 5 ans, 20% par an.
Oui, donc voilà, ça
reste... avec un programme d'accompagnement pardon, en termes de formation. C'est-à-dire qu'en fait, des gens étaient très mécontents et demandaient d'avoir la suite propriétaire. Alors parfois, il y avait des vrais obstacles en termes de compatibilité avec des logiciels métiers existants. C'est arrivé. Peu, mais c'est arrivé. Parfois, on était plus dans l'ordre soit de la méconnaissance, soit de la peur du changement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque personne qui exigeait d'avoir la suite Microsoft, je me rendais personnellement sur son poste et je regardais avec elle où était le point bloquant. Quand je voyais que c'était effectivement un problème culturel ou un problème de formation, on avait un cycle de formation avec des formations régulières sur lesquelles on inscrivait les gens pour qu'ils puissent découvrir et monter en compétence sur la suite libre.
Il y avait des tendances spécifiques, enfin c'était des résistances du coup qui étaient très variables, ou il y avait quand même des formes quand vous aviez voir spécifiquement ces utilisateurs utilisatrices, vous releviez des points communs ou c'était différent à chaque fois?
C'était très variable. Et puis je crois qu'on souffrait aussi un petit peu de cette image. C'est gratuit, donc c'est moins bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu dans ce que me renvoyaient les gens du sous-Microsoft, ce que faisait OpenOffice. Alors c'est quelque chose qui est complètement derrière nous. Aujourd'hui, c'est la suite, c'est une évidence pour tout le monde, on va dire. Voilà, c'est la suite qu'on trouve partout en mairie. Et si quelqu'un sort un fichier en docx, il est regardé comme un extraterrestre aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on a su, on a réussi à passer cet obstacle-là sans difficulté. Alors une autre chose que je tiens à dire aussi, c'est qu'à aucun moment on m'a donné d'objectifs chiffrés ou datés. On m'a pas dit il faut que dans 4 ans tout le monde soit passé sur OpenOffice. Donc on a pris le temps de mettre les choses en place, de faire les choses à notre rythme justement pour pouvoir de façon individuelle. Voilà, aider les gens à s'y retrouver avec la nouvelle solution.
Et alors du coup, là, ça fait quelques années que vous aviez initié ce processus. Vous nous dites qu'il y a encore 20% de renouvellement par an. Et en termes d'évolution, alors j'imagine peut-être que les résistances, est-ce qu'elles se font moindres maintenant, peut-être par l'exemple, dire que j'imagine que comme vous êtes de plus en plus nombreux au sein de Fontaine à utiliser du logiciel libre, peut-être que ça a une influence bénéfique pour aussi les autres personnes, et quel bilan finalement vous aussi vous tirez après ces plusieurs années de politique favorable, enfin de priorité logiciel libre?
Ben, le bilan est devenu très positif, LibreOffice est devenu une évidence aujourd'hui pour tous. Là où je suis très content, c'est qu'une autre chose qui a disparu, c'était on nous demandait parfois de l'aide pour l'installation sur des machines personnelles de suite bureautique. Aujourd'hui, les gens installent LibreOffice chez eux. Voilà. Donc, ça a essaimé au-delà de la mairie.
Oui, c'est un bel exemple. Devenu...
Ouais. On a eu un peu la même chose avec le passage sous Linux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des élus qui sont tellement en soutien qu'ils nous ont autorisé s'il y avait des demandes un peu particulières, du type une directrice d'école, par exemple, qui souhaite installer une Linux sur son portable personnel, à lui donner un coup de main.
On va peut-être préciser, voilà, quand vous parlez de Linux, il s'agit du système d'exploitation. C'est presque finalement l'étape ultime lorsqu'on migre du logiciel libre, c'est d'avoir un système d'exploitation, système d'exploitation libre comme l'EGNU Linux.
Tout à fait. C'est le remplacement de Windows. Donc là, c'est vraiment effectivement le changement, l'énorme changement. C'est quelque chose qui arrive absolument en tout dernier. C'est-à-dire que bon, j'ai beaucoup parlé de la suite bureautique, mais on a aussi adopté Firefox depuis très longtemps comme le navigateur par défaut sur l'ensemble des postes sous Windows. On avait aussi adopté un client de messagerie lourd qui s'appelle Thunderbird comme messagerie principale sur les postes clients. Bref, on a commencé par installer VLC, enfin des outils libres autant que possible sur l'ensemble des postes Windows. Et effectivement, le remplacement de Windows par autre chose, et donc par Linux en l'occurrence, a été facilité par le fait que l'ensemble des logiciels que les gens étaient habitués à utiliser, ils les retrouvaient avec une interface évidemment un petit peu différente, mais les outils qui, eux, ne changeaient pas.
Oui, il y a une progressivité. Et du coup, c'est quelle distribution de GNU Linux? Enfin, je ne sais pas s'il y en a forcément toujours la même ou c'est variable.
Alors, on a fait quelques tests. En fait, on a passé, ça aussi, en termes de stratégie de migration, ça a été quelque chose de très réfléchi. Et on a pris notre temps, on a passé énormément de temps à essayer de trouver l'interface graphique qui, justement, générait le moins de résistance. C'est-à-dire celle qui nous a semblé la plus ergonomique et que les gens s'appropriaient le plus simplement. Alors, on a fait différents essais, notamment avec Ubuntu, et puis ensuite Ubuntu avec un doc qui s'appelle CairoDoc, qui permet d'avoir comme une espèce de barre d'équivalent de barre des tâches sous Windows avec les applications favorites sous forme d'icônes. Finalement, on a opté pour une distribution qui s'appelle Elementary OS et qui, en termes d'ergonomie, est assez proche de ce que peut proposer Macintosh, en fait, enfin Apple plutôt, pardon, sur les Mac. Donc avec un doc et un menu où les différentes applications sont classées par catégorie. Et voilà, donc on a fait plusieurs tests et c'était manifestement l'interface graphique que les gens s'appropriaient le plus naturellement. Donc c'est ce qui a expliqué notre choix. On a aussi beaucoup bossé sur l'intégration dans notre système d'information, notamment pour que quand les gens s'authentifient sur leur poste, quand ils se connectent avec leurs identifiants et mots de passe, et ben ces identifiants et mots de passe leur permettent de s'authentifier aussi bien sous une machine Windows que sous une machine Linux, que les disques partagés, les disques réseau, soient remontés exactement de la même façon, donc avec une gestion de session exactement comparable à celle qu'on pouvait avoir sous Windows. Bref, on a essayé vraiment de faire une intégration la plus transparente possible. Ça a été, je crois, une des conditions du succès aussi du passage à Linux.
Et vous évoquiez un doc. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être en deux mots de quoi il s'agit?
Ben, c'est ce que j'expliquais. C'est l'équivalent de la barre des tâches sur une machine sous Microsoft. C'est-à-dire, c'est cette barre que vous avez en bas et sur laquelle vous avez des icônes qui vous permettent de lancer vos applications favorites.
Entendu. Mais non, et du coup, moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est ce qu'on observe souvent, hein, vous pourrez me corriger, mais on voit que les nerfs de la guerre, c'est de prendre le temps de le faire, et surtout que ça parte et de le faire en partant des utilisateurs, des utilisatrices, plutôt que d'imposer sans prendre en compte les réalités de leur travail, de leur pratique, et sinon, ça ne peut pas fonctionner, en fait.
Tout à fait, hein. En fait, on a passé 3 mois sur l'interface graphique, l'intégration dans notre système d'information. Enfin, ça a été 3 mois de boulot pour arriver à avoir une interface dont on était satisfait. Et ensuite, on est passé par une période de bêta-test qui concernait donc les décideurs, encore une fois, élus, direction générale, cabinet, qui a duré 3 mois, où on a eu de nombreux retours qui nous ont permis de mettre la dernière main à notre interface pour que ce soit... Ben voilà, que tout soit fonctionnel, que l'ensemble des fichiers soit correctement lu, que l'ensemble des pilotes, enfin de tous les périphériques qu'il peut y avoir autour d'un ordinateur, imprimante et tout ça soit correctement géré. Et c'est seulement après cette période de 3 mois qu'on a avancé dans la migration. Là aussi, ça a été très très progressif. Et puis ça a été un travail global, c'est-à-dire quel que soit le passage au libre qu'on envisage, que ce soit sur une suite bureautique ou un passage comme ça de Windows à Linux, il y a une chose très très importante, c'est bien de prendre en compte l'ensemble du système d'information, vérifier par exemple que tout ce qui est impression fonctionne correctement avec les nouveaux logiciels, avec le nouveau système, pour que faut vraiment pas que ce genre de choses-là soit un frein. Les gens ont déjà l'inquiétude d'un changement de système. Si en plus ils rencontrent des difficultés qu'ils ne rencontraient pas auparavant, là ça peut vraiment compliquer les choses.
D'accord. Alors du coup, là vous avez dressé un beau bilan, enfin, vous avez bien expliqué tout ce qui en tenait. C'est quoi les prochaines étapes donc? Enfin, s'il y a des prochaines étapes ou des ambitions
Là où on avance beaucoup, c'est sur les logiciels métiers. On commence à avoir des logiciels libres maintenant qui sont... Alors, ce que j'appelle logiciels métiers, c'est des logiciels liés à une fonction particulière. Typiquement, quelqu'un qui fait de l'urbanisme au sein d'une mairie, qui va gérer tout ce qui est permis de construire ou ce genre de choses, aujourd'hui utilise un logiciel propriétaire parce qu'on est sur des logiciels... sur une législation qui évolue en permanence et très rapidement. et qu'on a besoin d'avoir des logiciels qui prennent en compte cette nouvelle, ces nouvelles législations très très rapidement. Et typiquement sur l'urbanisme, on n'a pas trouvé de logiciel libre permettant de gérer correctement tout ce qui est droit des sols et enfin, toutes ces problématiques-là. La nouveauté, c'est que de plus en plus, sur la gestion de tout ce qui est enfance, petite enfance, jeunesse, activités, centres sociaux, gestion du personnel, gestion financière, on a des logiciels, on le voit, qui montent en puissance et qui permettent de et qui peuvent être utilisables dans le cadre d'une entreprise comme dans le cadre d'une collectivité. Donc ça, c'est le, je crois que c'est le dernier effort à fournir, c'est ce passage des logiciels métiers de solutions propriétaires à des solutions libres.
Oui, on entend souvent qu'il y a un enjeu assez spécifique sur les logiciels métiers, parce qu'ils sont très, beaucoup plus proches peut-être des pratiques, des besoins très spécifiques des agents en fonction de leur mission. Du coup, alors c'est quoi la proportion, vous diriez, des logiciels métiers où vous avez pu passer au libre, enfin, si c'est estimable d'ailleurs?
Alors, on n'en a pas énormément des logiciels métiers, mais ça doit être... on doit être à moins de 50%, je pense. Hein. Ouais, on est à moins de 50%. En revanche, on réfléchit et on reste attentif à tous les nouveaux logiciels qui peuvent soit évoluer, soit être créés et qui sont utilisables. On a pas mal bossé sur des services qui sont sur des projets naissants dans lesquels on s'est inscrit. Je pense à PeerTube notamment, qui est ce système qui permet de remplacer YouTube pour la diffusion de vidéos. Quand PeerTube est sorti, on s'est assez rapidement mis dessus. Hein, c'était encore une version bêta. Et on a très rapidement adopté cette solution-là pour l'ensemble des diffusions des vidéos de la ville. Voilà, donc c'est un travail permanent en fait, hein, de recherche et d'adoption de nouveaux logiciels quand des logiciels se présentent et qui correspondent à l'ensemble des besoins qui sont les nôtres.
Oui, c'est un enjeu qui est important d'identifier et puis voilà, de faire de la veille, effectivement. Avant, parce que là, je pense qu'on va faire une petite pause musicale, peut-être juste préciser que vous avez évoqué PeerTube, qui est donc un logiciel qui a été développé par nos amis de Framasoft en alternative à YouTube et qui est donc un très beau projet que nous soutenons, bien sûr. Et il est intéressant que des municipalités comme Fontaine se saisissent de ces outils-là, comme vous le faites.
Nous allons effectivement faire une pause musicale juste avant ça, comme il est souvent question du terme Linux. Je rappelle que nous préférons largement le terme GNU Linux à la fois pour créditer l'importance du projet GNU et créditer aussi l'importance des libertés. Et pour en apprendre plus sur les distributions GNU Linux, notamment Debian, Ubuntu, etc., je vous renvoie au podcast du 30 avril 2019, donc sur Libre à vous, donc soit sur april.org, soit sur causecommune.fm. Donc nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter Rolling Season par Kevin Hartnell. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Rolling Season par Kevin Hartnell, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Le site de l'artiste, c'est kevinhartnell.com. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous discutons actuellement de la stratégie logicielle libre de la ville de Fontaine. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Et je repasse tout de suite la parole à Nicolas Vivant, DSI de la ville de Fontaine, et Étienne Gonu de l'April.
Merci Fred. Alors on a parlé beaucoup, Nicolas, de logiciels. Je pense que, alors à l'April, nous on défend une priorité au logiciel libre. Il serait peut-être intéressant d'avoir votre tour. J'imagine que vous avez une politique d'acquisition de logiciels ou une manière d'acquérir de logiciels lorsque vous identifiez un besoin. Comment cela se passe-t-il et comment faites-vous en sorte justement d'utiliser principalement du logiciel libre ?
Alors c'est passé par, et c'est en ça qu'un passage au logiciel libre est un projet global et pas juste un problème, un projet informatique. À partir du moment où on a fait le choix de passer au libre, on a fait le choix aussi, dès que l'occasion nous en était donnée, de recruter des gens qui avaient des compétences dans le libre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a migré vers des outils libres, on a eu aussi une montée en compétences de l'équipe au sein du service informatique pour gagner en autonomie sur la gestion des logiciels. Voilà. Et puis pour parce qu'on est, on ne s'improvise pas spécialiste du jour au lendemain. On a un prestataire qui est une scope locale de gens qui sont compétents, pour pas dire très pointus, sur tous les logiciels, sur tous les logiciels libres, et qui, notamment sur la partie serveur, sur la partie messagerie, quand on rencontre des problèmes vraiment importants, viennent nous donner un coup de main en troisième niveau, quoi. Donc c'est une prestation qu'on a, à laquelle on fait de moins en moins appel parce que parce qu'on monte en compétence et qu'on est de plus en plus autonome sur nos solutions. Mais voilà, c'est indispensable. À ce sujet, je tiens à dire que un des énormes avantages du logiciel libre, c'est justement ce cercle vertueux qui se met en place quand on passe au logiciel libre. C'est-à-dire que là où quand on est sur du logiciel propriétaire, en général, on n'est pas seulement coincé en termes de logiciel, mais on est également coincé en termes de maintenance. C'est-à-dire que la société qui vend le logiciel est également celle qui fournit la maintenance et personne d'autre. Avec potentiellement des revenus pour cette entreprise qui partent à la maison mère en Irlande, aux États-Unis ou que sais-je. Là, on rentre dans un système où on va avoir tendance à faire appel à des prestataires locaux, c'est-à-dire des gens qui sont des habitants du territoire, qui logent, qui se nourrissent, qui bénéficient de l'ensemble des infrastructures de la commune. Et en fait, on participe à l'animation économique du territoire. Parce qu'évidemment, il serait absurde pour obtenir une prestation autour d'un logiciel libre de faire appel à un prestataire qui est situé à 500 km de là, alors qu'on a plusieurs entreprises ou scopes qui maillent le territoire et qui permettent d'obtenir une assistance de qualité.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie aussi beaucoup de mettre en avant à l'April dans nos actions, c'est que finalement, le logiciel libre passe son fonctionnement par le fait que ça passe par des prestataires et bien plus souvent inscrit dans les tissus économiques locaux. La manière dont vous parlez, on a presque l'impression que vous nous parlez du bio, quoi, qui a un côté beaucoup plus... où il y a du lien, où il y a finalement quelque chose de plus sain pour les communautés. D'ailleurs, je parle de communauté, on sait que la notion de communauté est très importante hein, dans le monde du logiciel libre. D'ailleurs, est-ce que vous avez des liens, vous, avec les communautés du logiciel libre? Comment
Alors oui, bien sûr. Alors d'abord, on a des liens avec d'autres collectivités qui entament ce même type de chemin et qui de temps en temps nous contactent pour avoir des coups de main ou des informations sur une solution ou une autre. Voilà, donc il y a ce travail qui est assez régulier. Et des villes qui peuvent être assez éloignées, en fait, on se contacte assez fréquemment. Il y a évidemment la participation à un certain nombre d'événements ou l'adhésion à des associations type l'April, la Dulac, voilà. Et puis il y a des contributions directes à certains logiciels, soit par le biais de patchs, ça nous est arrivé de publier des patchs, c'est par le biais de rapports de bugs sur des logiciels un peu neufs, par exemple comme Peertube. Au début du projet, j'ai été très très actif sur des demandes de fonctionnalités, sur des rapports de bugs. Et puis on a contribué aussi à la traduction d'un certain nombre de logiciels, notamment dans les logiciels proposés pour Elementary, mais pas seulement, sur un certain nombre de logiciels qui existaient en anglais pour lesquels on n'avait pas de traduction en français. On a aussi contribué à une vingtaine de logiciels dans leur traduction en français.
Oui, c'est une précision importante que vous faites. On a vu la même conversation d'ailleurs la semaine dernière avec Olivier Simon. C'est que vous n'êtes pas seulement, on va dire, utilisateur passif de logiciels, mais vous contribuez aussi à améliorer, et c'est tout l'intérêt du logiciel libre, c'est que tous les utilisateurs en fait participent à améliorer le logiciel qu'ils utilisent, leur bien commun quelque part. Et donc vous avez une politique du coup inscrite de contribution formalisée, ou c'est quelque chose que vous faites
Non, c'est quelque chose qu'on fait. Alors d'abord, c'est quelque chose qu'on fait un peu naturellement. Ça nous semble juste normal. Et puis, il faut noter que c'est quelque chose qui s'est fait dans un second temps. Ça, il ne faut pas non plus, ça faut pas avoir honte de faire le choix du logiciel libre, même si on sait qu'on ne pourra pas contribuer.
Bien sûr.
Parce que dans un premier temps, c'était notre cas. Enfin, le temps qu'on monte en compétences aussi, qu'on se les approprie et qu'on comprenne comment fonctionnaient les différentes communautés, qu'on comprenne comment on pouvait contribuer. Ben, il y a eu une période où on était des utilisateurs et exclusivement des utilisateurs. Donc, voilà. Après, non, c'est pas formalisé, non.
Ok. Oui, et puis vous avez raison de préciser qu'il est normal d'avoir une progressivité et de pas sauter les étapes, et il n'y a pas de honte à avoir. Oui. Alors, du coup, on me signale, je vois des questions qui arrivent sur notre salon web. Alors, une première question, savoir ce que vous mentionnez une scope. Est-ce qu'il s'agit de démotique?
Alors la scope, non, la scope c'est pas démotique. Alors on connaît démotique et on a eu l'occasion d'échanger avec eux et sur tout un tas de solutions qu'on utilisait, voilà. Mais non, la scope c'est pas démotique, elle s'appelle Prom6, la scope. Voilà. Mais démotique est une autre, c'est une association d'ailleurs, c'est pas une scope. Alors à un moment ils voulaient se transformer en SKIC, mais je crois que ça reste une association démotique. Donc ça aurait pu être eux, effectivement, mais non, c'est pas eux.
Autre question, comment réagissent les nouveaux employés qui découvrent qu'ils devront utiliser du logiciel libre dans leur nouveau travail? Et ce qui me fait penser, moi, à une question qui va dans le même sens, est-ce que quand vous recrutez, est-ce que vous recrutez plus facilement des libristes? Est-ce que le fait que vous utilisez du logiciel libre vous permet, on va dire, pour prendre un terme classique, d'attirer des talents?
Alors, dans le service informatique, clairement, oui. Et notamment, alors pas seulement par le fait qu'on utilise des logiciels libres, mais il y a, comment dire, un bénéfice collatéral de l'utilisation du logiciel libre, j'en ai parlé un petit peu, qui est que on a gagné en autonomie au niveau du service, c'est-à-dire que le travail qui est fait au sein du service informatique de Fontaine, c'est pas un travail de gestion de prestataire, c'est un vrai travail de gestion de réseau, de gestion système, de gestion de la sécurité, voilà. Donc c'est un vrai travail d'informaticien en gros, avec des solutions à trouver. Quand on met en place du monitoring, vous voyez, j'ai un stagiaire en ce moment, par exemple, on a différentes solutions de monitoring de notre réseau, hein, pour nous assurer que l'ensemble de nos équipements, de nos serveurs principaux et tout ça fonctionnent correctement. Donc là, on a décidé d'essayer une solution qui s'appelle Zadix, qui est une solution libre de monitoring du réseau. Et donc j'ai mis un stagiaire là-dessus, il est ravi. Il est ravi puisqu'il fait absolument tout. Il récupère le logiciel, il installe, il lit la doc, il construit les premières cartes. Voilà, on travaille ensemble pour mettre en place.
Enfin, c'est beaucoup plus formateur que d'un usage passif de logiciels privateurs, oui, j'imagine bien.
Tout à fait, ouais. Et on a beaucoup de projets comme ça. Il y a des solutions qu'on a construit nous-mêmes, par exemple pour la prise de main à distance, faciliter des postes. Donc il débarque et puis c'est il y a un côté atelier qui est innovant, qui est très sympa. Là, quand on a mis en place, donc c'était peu de temps après mon arrivée, quand on a mis en place la synchronisation des smartphones, des élus et des décideurs avec notre agenda partagé et nos carnets d'adresses partagés, c'est pareil, ça a été un projet passionnant à mener, parce que c'est quelque chose qu'on a fait en complète autonomie. Et qui fonctionne très bien. Donc voilà, au niveau du service informatique, c'est clair, c'est surtout des libristes. Ensuite, au niveau des autres services, non, on n'est pas... En revanche, ce qui est très très intéressant, ça s'est produit à plusieurs reprises ces dernières années, c'est quand quelqu'un arrive, chez nous, typiquement un nouveau chef de service qui arrive d'un environnement qui fonctionnait exclusivement sur du logiciel propriétaire, et ben on y va toujours doucement en disant bon écoute, chez nous c'est un petit peu différent, alors qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que par exemple tu préfères peut-être un poste sous Windows dans un premier temps et puis ensuite on voit? Et j'ai plusieurs nouveaux recrutés comme ça qui m'ont dit non bah essayons et puis on verra bien. Voilà. Et c'est toujours une immense satisfaction de voir que ça se passe bien, qu'ils adoptent et que voilà. Il y a aucun problème et on voit des gens donc s'adapter très très rapidement et c'est un bonheur. Vous savez le meilleur retour que j'ai vraiment, celui qui me fait le plus plaisir quand j'installe un nouveau poste sous Linux hein, typiquement, parce que c'est vraiment ça le plus gros changement dans notre infrastructure. C'est quand quelqu'un qui bossait depuis 10 ans sous Windows passe sous Linux, ça me dit ouais, bah finalement ça change pas énormément. Voilà, ça je crois que c'est vraiment le but à atteindre quoi. Moi c'est le retour qui me fait le plus plaisir.
Et même pour aller plus loin, est-ce que vous avez eu des retours peut-être d'agents publics justement qui ont même découvert des usages, enfin des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire peut-être avoir des besoins, des adaptations qui pour que le logiciel réponde encore plus précisément à leurs besoins, ou parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être, qu'ils comprennent peut-être aussi l'intérêt politique du logiciel libre, est-ce qu'il y a des agents, au-delà de se rendre compte qu'en fait ça ne les bloquait pas dans leur travail, ça leur apportait quelque chose de plus, ou...
Alors, bah,
c'est difficile à dire,
il
mais...
Y a... Oui, enfin, indirectement, oui. Typiquement, il y a des logiciels propriétaires qui coûtent très 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 cher et qui donc qu'on retrouve dans une collectivité forcément en nombre limité, simplement parce que le coût de licence est prohibitif. Et je vais vous donner un exemple avec un logiciel que je vais nommer, qui s'appelle AutoCAD, et qui est un logiciel qui permet de faire des plans tout très utilisés dans les bâtiments, mais aussi dans la conception de pièces. En 2D ou en 3D, enfin voilà. AutoCAD, c'est un logiciel qui coûte une fortune. Voilà. Quand on utilisait AutoCAD, à mon arrivée c'était le cas, eh bien on avait, je sais plus, peut-être 2 ou 3 licences, quoi. Et chaque fois qu'il fallait les renouveler, je pleurais. Aujourd'hui, on utilise LibreCAD, ben voilà, on le déploie à autant de personnes que nécessaire, y compris des gens qui l'utilisent de façon épisodique. Ben, on leur installe LibreCAD sans aucune difficulté. Et c'est ça qui, plus que de nouveaux usages, c'est comment des usages peuvent être beaucoup plus larges, finalement, avec le logiciel libre. Un autre exemple, qui est intéressant, je crois, c'est qu'on était il y a à la recherche d'un logiciel de gestion du recrutement à Fontaine. On s'est mis à utiliser Odoo, qui s'appelait auparavant OpenERP, qui est un logiciel de gestion d'entreprise, en fait, qui intègre un module de gestion des ressources humaines et donc de recrutement. Donc, on a mis ça en place au sein de notre service ressources humaines à Fontaine. Et en fait, les retours ont été tellement bons au sein de notre service que ça s'est su dans d'autres communes et que finalement, on a aidé 4 autres communes à installer ce logiciel et c'est aujourd'hui devenu le logiciel de gestion du recrutement de 4 autres grosses communes sur l'agglomération grenobloise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans... On se donne des conseils entre DSI, évidemment, on peut discuter de solutions, j'ai acheté tel outil, il est vraiment très bien, ou on rencontre des difficultés. Mais arriver à sur un besoin, on va dire, nouveau, à équiper à un coût qui est quasiment nul, quoi, d'autres collectivités, je trouve que ça s'inscrit parfaitement à la fois dans les valeurs du libre et dans les valeurs du service public. C'est de l'argent public bien...
Oui, bien employé, oui.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui, non, c'est intéressant comme exemple, c'est une très belle illustration de l'intérêt en termes de mutualisation, hein, pas seulement d'ailleurs technique, mais en termes d'échange de pratiques, d'expérience et de mise en commun. Oui, c'est très, très intéressant. Alors, je vois que le temps avance et je pense qu'il serait peut-être intéressant, même rapidement, d'évoquer la question des données publiques, de leur ouverture, de leur réutilisation potentiellement par les habitants, les entreprises locales. Est-ce que, il y a une politique, souvent on parle d'open data, c'est un peu le terme consacré à Fontaine. Mm-hmm.
Alors oui, parce que de toute façon on y est contraint légalement. Mais pas seulement. Enfin, le principe de l'ouverture des données et de l'accès au public des données publiques, c'est un principe qui est bon. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. La mise en place d'un portail permettant de mettre à disposition des usagers ces données-là est coûteux, et on a la chance, nous, d'avoir au niveau de la métropole, c'est-à-dire notre communauté de communes de l'agglomération grenobloise, donc la métro, qui a mis en place un portail qu'elle propose, qu'elle partage avec les communes qu'ils souhaitent pour mettre à leur disposition leurs données publiques. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose, et on va mettre en ligne nos premiers jeux de données très bientôt sur ce portail-là. En revanche, il y a une chose, on a été un petit peu réticents, je vous le cache pas, on s'est pas jeté tout de suite dans la bataille, parce que l'open data, c'est pas du libre. En fait, c'est vraiment très très différent, et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on les associe systématiquement. L'open data, c'est la mise à disposition de tous des données publiques. Ces données publiques, elles ont été produites par le public. Ça a coûté de l'argent. Cet argent, il a été investi par le public pour produire les données. Une fois que ces données sont produites, quand on les met à disposition, il faut faire très attention à ce qu'on permet en termes d'utilisation de ces données. C'est-à-dire que si on permet la privatisation de ces données publiques pour qu'elles soient éventuellement revendues aux usagers, ça veut dire que les usagers payent deux fois ces données-là. Une première fois sous forme d'impôt, c'est ce qui va permettre aux collectivités territoriales de produire ces données, et une seconde fois à l'entreprise privée qui les aura remises en forme, qui en aura fait quelque chose de sexy ou qui les aura croisées et qui va leur les revendre. Et ça pose un vrai problème politique. D'autant qu'au départ, quand on a commencé à s'intéresser à l'open data, je crois que c'était autour de 2013-2014, la licence recommandée par l'organisme d'État qui pousse à l'open data, donc le fameux data.gouv.fr, c'est ce qu'on appelle la licence ouverte, qui non seulement autorise la réutilisation commerciale des données, mais encourage, incite le privé à la réutilisation de ces données-là.
Oui, on avait travaillé normalement avec eux. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est que vous évoquez quelque chose qui, en fait, était au centre de la chronique précédente d'ouverture de Marie-Odile Morandi. C'est l'important de ce qu'on appelle la clause share alike. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'exprime dans les Creative Commons. C'est-à-dire un peu les licences héréditées et qui imposent la réutilisation, que les réutilisations conservent la licence libre. Et on voit effectivement l'importance que ça peut relever, finalement, je vais pas, sans vous paraphraser, voilà, en termes de maintenir les données librement accessibles et librement réutilisables. Je pense que le point commun, effectivement, il y a des problématiques très spécifiques. Le point commun, c'est une éthique du partage, de la réutilisation, de ce qui est produit, doit rester dans le pot commun, puisque c'est produit justement avec les moyens communs. Il nous reste 2 minutes max. Est-ce que vous avez peut-être un dernier point que vous souhaitiez évoquer avant qu'on conclue notre échange ?
Alors, il y a une chose que j'ai pas dit pour que les gens se rendent compte, c'est que Fontaine est une ville de 23 000 habitants. Et c'est, pour le service informatique, ça représente un peu plus de 600 postes pour que les gens aient une idée un peu de l'échelle dont on parle.
Oui, c'est important.
On n'est pas, disons qu'on est une grosse PME. On n'est pas une commune, on n'est pas Lyon ou Paris. Voilà, on n'est pas non plus une toute petite commune avec une dizaine de postes. Donc c'était juste, voilà, pour préciser
oui.
Ça, je crois que ça.
Et qu'il n'y a pas besoin d'être une grande commune, une grande collectivité, une grande administration pour pouvoir s'engager comme vous le faites pour le logiciel libre, mutualiser avec d'autres communes comme vous avez pu le faire, voilà, sur l'exemple que vous donniez. Et je pense que c'est important de le rappeler également, hein. D'ailleurs, il y a les très petites communes, on parle du territoire numérique libre, il y a les très petites communes qui ont montré leur engagement pour le logiciel libre. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'important à rappeler. En tout cas, un grand merci, Nicolas Vivant, donc DSI pour Fontaine, de cet échange. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Eh bien, écoutez, merci à Nicolas. Et pour ceux celles qui voudraient voir la tête de Nicolas et le voir en vidéo, je vous invite à consulter le site de l'April, april.org et causecommune.fm. Vous y retrouverez un lien vers un bonus de la bataille du libre, qui est un documentaire qui avait interviewé donc Nicolas Vivant. Donc, et la vidéo a été transcrite, évidemment, par Marie-Odile Morandi. Donc, on fait le lien avec la première chronique. Merci Étienne, merci Nicolas Vivant.